Bonjour Monsieur Aquilon, nous sommes le 18 janvier 2024 à Tours et je souhaite vous interviewer sur votre parcours de chercheur en histoire du livre au Centre d'études supérieures de la Renaissance et en particulier sur vos recherches sur les incunables et les imprimés de la Renaissance. Et avant de commencer, je vais vous poser une question indiscrète. Quelle est votre date et votre lieu de naissance?
Bonjour madame. Bien, la date, c'est le 27 juillet 1938 et le lieu, c'est Orléans. Voilà, fils d'enseignant, te et d'enseignant, ma mère étant institutrice, et mon père professeur à l'école normale de Loche. Voilà, donc bien que né à Orléans, je suis lochois depuis, comme 27 juillet, ils sont rentrés en classe le 1er octobre, comme c'était la règle. Donc oui, j'ai été orléanais très brièvement, et après, jusqu'au baccalauréat, j'ai été au lycée, au collège, puis lycée, mais le lycée c'était bien après mon départ, de Loche, voilà. Et puis après, j'ai fait une escale à Tours en Hippocagne. Et ensuite, je suis allé en classe préparatoire Henri IV, où j'ai tenté d'entrer au 45 de la rue d'Ulm, mais les portes sont restées closes pour moi. Mais enfin, bon, j'avais quand même une formation qui m'a permis de parvenir à l'agrégation de grammaire, puisque c'est grammairien où je m'étais inscrit.
D'accord.
Voilà, petit parcours rapide de la formation.
Donc, agrégation de grammaire à Sorbonne, à Paris.
À Paris, oui, c'était une agrégation de toute façon nationale. Hein. Mais la préparation, je l'ai eue effectivement à la Sorbonne, qui était, voilà, que je continue de fréquenter malgré un certain âge. Et voilà, oui, c'est une bibliothèque qui a beaucoup évolué, évidemment, depuis ma jeunesse, et dont je découvre les progrès en matière de prêt, numérisation et autres sources d'accès aux livres dont je peux avoir besoin.
Bien sûr. Et donc, comment avez-vous commencé à vous intéresser à la bibliographie et en particulier aux incunables?
Oui, là, au départ, j'avais une thèse secondaire, puisqu'il devait y avoir deux thèses à l'époque, dont ni l'une ni l'autre, je dois l'avouer, n'a été menée à sa fin. Et la bibliographie, thèse secondaire, c'était les Bibles en français, fin du 15e et 16e siècle. Alors, je ne sais pas exactement le détail de ce qui était le sous-titre de cette thèse, mais donc je commence à explorer les ressources en la matière, et c'est là que je me suis aperçu que les fonds patrimoniaux, on disait à l'époque les fonds anciens, des bibliothèques étaient tout à fait insuffisants en matière d'identification, de repérage, etc. Donc j'avais mené une espèce d'enquête avec des lettres où je demandais quelles étaient les Bibles, Nouveau Testament, Psaumes, etc., en langue française, qui pouvaient être conservées dans les bibliothèques. Et là, j'ai reçu beaucoup de choses qui étaient, enfin, à mon sens, tout à fait insuffisantes. Et je découvrais, en allant quand même dans quelques-unes de ces bibliothèques, combien le repérage de ces ouvrages était insuffisant. Il y avait des catalogues imprimés, bien sûr, mais dans beaucoup de bibliothèques, il y avait des fonds patrimoniaux. Je me souviens surtout celui du Mans, où j'ai fait sans doute la découverte. Enfin, la découverte, c'est pas une découverte, mais je découvrais depuis 1905. On était dans les années 70. Hein. Depuis 1905, le fonds de séminaire était toujours... le fonds du séminaire qui avait été confisqué en 1905, comme les fonds religieux de l'époque, il y avait un début de catalogue qui s'arrêtait au numéro 100. Vous voyez, et il y avait plusieurs milliers de volumes, hein, dans ce fonds du séminaire. Et notamment là, il y avait une Bible, qu'on dit Bible à l'épée, qui est la première vraiment Bible calviniste et calvinienne, Calvin ayant procédé à ses corrections, vraiment Bible protestante, la Bible à l'épée, qui est rare. Qui était là, quand même mentionné dans le catalogue, mais sans plus d'affaires. Et puis, de fond en fond, je découvrais qu'il y avait des bibliothèques qui n'avaient pour catalogue que des grands registres qui pouvaient avoir été dressés entre 1840 révisés, complétés dans les décennies suivantes jusqu'à l'époque contemporaine. Le fonds d'Orléans, très riche, le fonds d'Orléans était identifiable uniquement avec ces gigantesques catalogues qui sont encore d'ailleurs à Orléans comme point de référence originel pour, même si tout ça est maintenant en numérique, il est conservé. Et c'était le seul, fallait aller rue du Panloup pour pouvoir accéder à ces catalogues, à ces volumes. Voilà, donc je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Et il n'y avait pas de bibliographie encore qu'on peut dire correcte, conforme au canon qui commençait à se mettre en place dans le domaine de la description des livres anciens. Voilà. Donc c'est par là que c'est cette découverte, si vous voulez, du manque d'accès aux informations qui m'a dit, mais et puis il y avait bien sûr d'autres choses, mais c'était vraiment le point central. Ça a été comme un déclic sur il faut que l'histoire du livre prenne vraiment une place dans les études universitaires. Oui. Parce qu'il y avait dans ce domaine, il y avait encore, est-ce que l'ENSIB existait? J'en suis pas si, l'ENSIB existait, mais c'était une formation spécifique lyonnaise pour les gens qui passaient un concours d'entrée à l'ENSIB et qui devenaient bibliothécaires. Dans le domaine universitaire, il y avait l'école des chartes, qui formait des chartistes, paléographes et historiens du livre, mais quand même plutôt du manuscrit que de l'imprimé. Et vraiment, l'imprimé était le parent pauvre de ce domaine. Or, quand même, les chercheurs, qui soient littéraires, qui soient historiens, qui soient historiens de toutes les sortes, ont besoin d'avoir accès au livre et de le considérer comme un objet matériel qui a ses paramètres propres. Voilà. C'est le point de départ. Il y avait déjà quelques universitaires qui s'intéressaient au problème. Il y avait un collègue à Montpellier et un autre à Troyes, je pense. Je sais plus. Mais enfin, c'était tout à fait confidentiel et on a communiqué entre nous lorsque Henri-Jean Martin Henri-Jean Martin, je l'ai rencontré à Lyon pour la première fois. Il était en en conversation avec des disciples à l'époque, mais bibliothécaires, je pense, mais qui avaient déjà compris que c'était quand même le père fondateur de cette vague nouvelle d'historien du livre et du livre imprimé, puisque sa thèse, je ne sais pas s'il l'avait fini à l'époque, sur lecteurs, livres et lectures à Paris au XVIIe siècle. Oui, c'était un XVIIe-iste. Et donc je l'ai rencontré diagnostiquait bien les possibilités du numérique, de l'informatique en matière de livres imprimés. Il voulait constituer des catalogues généraux interactifs avec ce qui s'appelait les empreintes. Vous voyez, c'est un certain nombre de signes qui sont repérés à l'intérieur du volume, au titre, à la page 3, à la page 7, je me souviens plus très bien, j'ai su ça par cœur, mais je me souviens plus très bien, et qui étaient enregistrés, et à la limite, on pouvait être analphabète ou quasiment, et cataloguer un livre en relevant correctement ses empreintes. Et alors, je me souviens d'une séance. Alors, le matériel était basé à Montpellier, il me semble, enfin, très loin de Paris, donc ça démontrait l'interopérabilité des choses. Il nous avait réunis, donc des bibliothécaires, bien sûr. C'était à Paris, à l'IRHT, qui est maintenant à Orléans, et l'immeuble de l'avenue d'Iéna, je crois bien que ça fait quelque chose comme ça, a disparu en tant que bâtiment de recherche du CNRS. Et donc on était là, et on allait pouvoir, en introduisant les empreintes d'un volume, dont on savait évidemment qu'il était décrit dans la base, uniquement avec cette information-là, recevoir la notice en ligne, en quelque sorte, ou sur un téléscripteur. Enfin bon, c'était quand même très, très ancien comme matériel. Mais, et alors là, on était immobile. Alors, ils avaient introduit le code, les fameuses empreintes, et on attendait le cliquetis. Vous savez, c'était à peu près les débuts de la télégraphie sans fil, dans l'émotion qui régnait alors. Et effectivement, on a entendu, venant de Montpellier, je crois, de l'ordinateur qui était là-bas, hein, une grosse bête pour l'époque, et la notice est sortie, Mirla Colo. C'était merveilleux. Voilà, donc là aussi, deuxième phase, en quelque sorte, un catalogage rapide. Et il fallait faire de l'abattage, en quelque sorte, pour alimenter ces bases et savoir où était quoi dans ce domaine quoi du livre imprimé, qui était quand même pas le plus pratiqué de... Alors voilà, c'est à partir de là que grâce à ma position au centre de la Renaissance, j'ai pu commencer à avoir des cours d'histoire du livre. Des petits cours, hein, c'était pas, un public étonnant en nombre, mais ça commençait pas mal.
Alors, si on revient au début, j'ai trouvé que votre première publication, c'était effectivement le catalogue des incunables de la bibliothèque de Loches.
De Loches, voilà.
En 1967.
En 67, c'était une publication renéotée par votre serviteur, où je faisais mes armes, en ayant pris pour objet de travail, une bibliothèque que je connaissais depuis, évidemment, ma toute jeunesse, et qui était à l'époque situé dans l'ancienne mairie de Loches, c'est-à-dire qui était l'hôtel de ville depuis François Ier, puisque le bâtiment a été construit près de la porte Picquoy pour être une mairie. Et elle était logée au dernier étage. C'était une très belle salle, hein, là où étaient les livres de l'ancien, le fond ancien, qui faisait plus de 4 mètres de haut, et qui m'avait toujours impressionné, parce qu'on y pénétrait avec révérence. Hein. Le reste, le prêt au public étant dans une autre salle au bout de laquelle régnait une demoiselle Drouard, je me souviens respectueux, devant une immense table où il y avait les périodiques auxquels la bibliothèque était abonnée. Dans la salle latérale, il y avait des vitrines où étaient exposés un certain nombre de volumes rares. Parce que dans les temps précédents, Mademoiselle Drouard n'était pas très spécialiste du livre sacré, mais il y avait eu, je crois, c'était M. Renard qui était dans l'avant-guerre, et puis un peu après la guerre, qui s'était occupé de la bibliothèque. Et qui avait fait ces présentations-là. Mais tout ça était très beau, dans d'excellentes, comment dirais-je, les tablettes, tout ça était très en beau bois, avec, je vous dis, ces vitrines. Alors là, on se penchait avec révérence dessus pour voir quelques incunables ou livres rares, mais incunables, je crois, et manuscrits, parce qu'il y a quand même un très beau manuscrit, mais c'était pas mon domaine, moi, c'était le... Et puis, on parlait beaucoup, je sais pas pourquoi, ah ben si, quand même, il y avait déjà... allez, vous avez dit, ma pub, 67. On parlait déjà d'un catalogue collectif par région. Ça, il me semble bien que c'était déjà lancé, des incunables des bibliothèques publiques de France. Et là, je découvrais encore les insuffisances dans ce domaine. C'est qu'il existait un catalogue collectif, le Pelchet, mais il s'arrêtait à Grégorius Magnus. Et le reste, c'était encore sur des fiches, c'est-à-dire des feuilles formant écolier, en gros, conservées dans des boîtes en bois. Alors, je ne sais pas si déjà c'était à la Bibliothèque nationale, mais je les ai vus après à la BNF. C'était les fiches que... Marie Pelchet, qui était morte vers 1901 ou 2 ou 3, enfin au début du siècle dernier, et continuée par Louis-Marie Paulin, qui avait rédigé les fiches, la Première Guerre mondiale étant survenue alors, tout ça est resté en matériaux manuscrits. Dans les années 70, je pense, Krauss a publié un facsimilé des fiches. Donc, mais alors, c'est 3 mètres linéaires de tablettes. Donc, ça n'avait jamais vu le jour, ce qui est dommage, parce que c'est des fiches intéressantes. Et puis, la reproduction de Krauss n'était pas terrible. Fallait que ça soit très, très, très pointu comme image pour... mais oui, une description, disons, quasi facsimilée, comme on disait, nécessite vraiment la plus grande précision. Donc, ça, c'est pas très bien. Il revient alors à... dans les années 60... Ah oui, ça sera quand même plus tard. Mais on parlait quand même des incunables et de leur catalogue. À Jean-Marie Arnoux, qui était conservateur de la bibliothèque de Châlons en Champagne, qui était encore sur Marne à l'époque, d'entreprendre, alors, en dehors de ses heures de service, avec son appareil photo, son matériel, les livres dont il pouvait avoir besoin dans la campagne. Il parcourait la région, toute neuve encore, je pense à l'époque, c'était pas bien mieux, Champagne-Ardenne, de bibliothèque. Il avait déjà le fonds de Châlons, mais c'est grand, Champagne-Ardenne. Il allait aussi à Reims, il allait à Charleville. Enfin bon, c'était assez large. Et puis, il a convaincu M. Desgraves, inspecteur général des bibliothèques à l'époque, de publier tout ça. Et Louis Desgraves, à qui je dois mon entrée en quelque sorte dans ce type de publication, Louis Desgraves crée, dans le cadre des bibliophiles de Guyenne, crée cette collection, catalogue régionaux des incunables bibliothèques de France. Voilà, que votre serviteur continue de comme je sais pas, ouais, de mettre en œuvre, mais évidemment, je vous expliquerai tout à l'heure les choses. Et il paraît donc en fin, je crois le millésime, ça doit être 79, mais en fait, il est apparu en janvier 80, le premier volume, Champagne-Ardenne, de ses catalogues. Donc, une collection, alors très différente de ce qu'avait envisagé, de ce qu'était le Pelchet, c'est-à-dire que là, on prenait régionalement, et puis on ne décrivait plus in extenso les volumes avec coupures de ligne du titre, les parties, c'était, oui, si, c'était déjà mis en œuvre. Et puis le colophon, même chose. Et puis le détail des signatures, des cahiers, de l'illustration éventuellement. Bon, c'était déjà quelque chose. Quand Louis-Marie Paulin a pris le relais, il a été plus loin dans les descriptions. Ce qu'on trouve, Louis-Marie Paulin était belge et il a rédigé le catalogue des Incunables Bibliothèques de Belgique, qui est un monument incontournable pour la précision des notices. Et, bon, bien sûr, les collections belges ne sont pas à la dimension à la mesure des collections des bibliothèques françaises, mais ça donnait déjà pour les ouvrages qui avaient décrit des informations extrêmement précises qui étaient tout de suite accessible. Le catalogue de Louis-Marie Paulin a dû paraître dans les années 20-30, vous voyez. Mais il était complet, il allait de A à Z, et il a même été complété après, dans les années 80, je pense, par un volume de supplément, parce que les bibliothèques belges, comme les françaises, avaient été amputées d'un certain nombre de leurs fonds anciens, notamment celui de Louvain, qui a disparu, alors je sais pas, c'est 44, je pense, à la fin. Louvain, donc, il fallait mettre que celui-ci avait disparu, mais que d'autres avaient été acquis. Donc le catalogue était un vrai modèle, hein. C'était vraiment le... Alors, c'est là-dessus que je m'étais fondé sur le Paulin, pour faire la description des, je sais plus vous dire, 17, 18 incunables. C'était pas une collection prodigieuse, mais bon, c'était un bon exercice pour le néophyte que j'étais et qui n'avait eu pas de maître dans la mesure où il n'y avait pas d'enseignement. Ça. Voilà. Donc c'était. Donc voilà comment je. La bibliothèque de Loches, comme cadre, comme, si vous voulez, illumination dans ce qu'était une bibliothèque. Il y avait beaucoup de mouches mortes, hein, dans la bibliothèque, je me souviens, parce que on n'y allait qu'exceptionnellement. Exceptionnellement. Beaucoup de mouches mortes derrière de grands rideaux, parce que je vous dis, ça faisait 4 mètres d'eau, hein, le grand ça, et qui descendaient, qui étaient ouverts une fois l'an, peut-être. Donc les mouches piégées. Voisinait avec...
C'était un début dans une ambiance particulière.
Tout à fait particulière, très, très sereine, avec un chef-d'œuvre d'un ouvrier charpentier qui doit se trouver maintenant au musée du Compagnonnage de Tours. Une très, très belle construction. Il était lochois, sans doute, il avait dû offrir ça. Et ce n'était pas tout à fait sa place dans une bibliothèque. Mais pour moi, ça fait partie du paysage, si vous voulez.